Radio U.
On n'est pas bien. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Ce programme de votre quotidienne, on recevra Brest Act dans le cadre du Téléthon et de Musée de la Marine de Brest. Mais avant, on va aller avec Aristide du côté de la PEPS qui organisait un atelier jardinage en plein cœur des jardins partagés de Kerguet. Alors, nous sommes censés écouter le reportage d'Aristide. Dis-moi, Jade, est-ce qu'on l'a en bloc ou pas ? Ouais, on l'a, parfait. Eh bien, on l'écoute tout de suite.
Moi, je suis Laure, du coup, de la PEPS. La PEPS, en fait, on a les jardins partagés sur le campus du Lubéo. Donc, où on est, c'est le jardin partagé de Kerguet. Et on a un autre jardin partagé au Giga.
Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a un atelier jardinage, donc en collaboration avec Vers le Jardin, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets. Donc c'est un atelier ouvert à tous, à tous ceux qui veulent apprendre. Il y aura un café compost sur la gestion des biodéchets. Là, on est en train de planter des bulles pour animer un peu le jardin et le décorer. Et puis tous ceux qui veulent venir travailler sur la parcelle collective, nous regarder, demander des conseils, etc. Ils sont les bienvenus.
Bonjour, je suis Elisa, je travaille à Vers le Jardin. Donc aujourd'hui, on est venu rencontrer les jardiniers pour une plantation de bulbes de tulipes pour mettre en valeur le jardin.
Monique, aujourd'hui, on plante des tulipes pour donner de la lumière au jardin.
Je m'appelle Bouchra, je suis étudiante à l'UBIO. Je fais un master 2 en management et administration des entreprises. Et je participe au jardin de Kerguet.
D'accord, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on fait la mise à jour de notre jardin de Kerguet, un peu de nettoyage, et on plante un peu des tulipes. Et pour moi, je nettoie ma petite parcelle.
Loin et même avant d'avoir une
Vous êtes toujours sur Radio U au 101.1. Vous venez d'écouter Scène et Pissoké de Parouin sur le 101.1. Et on reçoit tout de suite Hélène de l'association Brest Act qui organise dimanche 4 décembre de 10h à 17h aux ateliers des Capucins une journée spéciale pour le Téléthon. Salut!
Bonsoir Sébastien.
Alors l'année dernière, face à l'impossibilité d'organiser le traditionnel Zumbathon en raison du contexte sanitaire, vous avez fait une collecte qui était sur internet.
Alors et, si je peux te couper,
oui, dis-moi,
tout de
dis-moi,
suite,
vas-y, dis-moi.
C'est pas l'année, si l'année dernière.
C'était il y a deux ans déjà.
Il y a deux ans. Il y a
oh
deux
là
ans.
Là, ça ouais, passe vite. Ouais. Ça passe vite. Mais c'est vrai que ma question reste quand même la même, c'est-à-dire que sur tout ce contexte sanitaire qu'on a eu ces deux, trois dernières années, comment là vous êtes préparé sur cette édition
ouais, bah sereinement, beaucoup plus tranquillement, parce que pas de passe sanitaire, pas de masque, pas de gel, même si on va faire attention quand même, on va mettre du gel à disposition, des masques à disposition, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus serein. Et on n'était pas avec l'idée de est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, est-ce qu'ils vont, comment nous consigner ou pas. Donc on était cette année très très sereine, mais très très active parce que l'événement grandit et puis on est rejoint par beaucoup de personnes et d'activités, d'animations.
Alors là aussi, tu vas me dire si je ne dis pas de bêtises, j'espère pas en me trompant sur le chiffre, c'est la 10e édition, c'est ça?
C'est la 10e édition, oui.
Et alors, quels sont, les mots d'ordre et les objectifs pour cette nouvelle édition?
Comme les années précédentes, festive et caritative, et beaucoup de... c'est avec le cœur. Nous, les quatre nanas de Brest Act, on fait ça avec le cœur. C'est pour la bonne cause, mais aussi c'est pour le festif et puis pour donner une belle image de Brest et puis du territoire brestois pour ce Zumbathon, ce Téléthon et c'est toutes les animations que l'on propose. Ouais.
Et si on revient aux origines de la toute première édition, comment elle s'est lancée? Comment est venue l'idée de cette première édition?
Alors, moi, je faisais de la Zumba. Donc voilà. Et puis, c'était en 2013, je faisais de la Zumba. Et puis bon, on ne va pas tomber dans la tristesse, mais on a eu un événement familial un peu difficile, un problème génétique dans la famille. Et puis, je me suis dit, je m'occupais des basketteurs professionnels à l'étendard à l'époque. Je me suis dit, le basket professionnel, c'est bien. Trouver de l'argent pour le basket professionnel, c'est bien aussi. Mais s'investir pour une cause comme le Téléthon... Aider les chercheurs, trouver de l'argent, c'est aussi un beau projet. Et puis, j'ai regardé un peu sur Internet à l'époque. Il y avait déjà Internet. Je suis allée sur Internet et puis j'ai vu que ça pouvait se faire, que ça se faisait aux États-Unis, des rassemblements de Zumba. Et c'est comme ça que c'est parti. Une idée folle, pas d'association la première année et une vague jaune à Cerdan. Parce qu'on a fait ça à la salle Cerdan, des t-shirts jaunes que m'avait offert une banque brestoise. Je ne sais pas si je peux citer.
Ah si, tu peux.
Le Crédit Agricole qui nous suit depuis la première folie, la première édition 2013, en nous offrant les t-shirts jaunes. Et je me rappelle le titre des journaux, c'était « Vague jaune à Cerdan » pour le Zumbathon. Et ça a été 500 personnes. Et voilà, donc on a continué comme ça. Jusqu'à il y a 4 ans, où on est passé aux ateliers des Capucins pour agrandir l'événement et puis l'étoffer un peu plus. Ouais.
Alors, tu parlais de cette vague jaune. On aura deux porte-étendards, si je puis dire, de parrainage d'exception, puisqu'il y a Dame Fall qui a été tout juste sacrée championne du monde de roller du free jump et le rappeur brestois Jules Ibrahim. Ouais. Comment s'est fait ce double choix?
Alors, ce double choix. Bon, Jules Ibrahim, c'est un coup de cœur brestois. Et puis, c'est un gamin qui a du talent. Et puis, nous aussi, notre but dans l'association, c'est de mettre en avant les sportifs ou les artistes ou leur donner aussi un petit temps de visibilité. Et Jules Ibrahim, c'était un concours de circonstances, des relations communes, de connaissances. Moi, je l'ai connu quand il avait deux mois et demi. Donc, c'est comme ça, c'est parti comme ça. Et Dame Fall, alors c'est parce que je suis aussi administratrice au Crédit Agricole et on subventionne certaines associations et j'ai rencontré le Brest Roller Club dans ce cadre-là. Et Fabienne Fallin, la présidente, je lui ai proposé de venir nous aussi sur le plateau des Capucins avec nous pour le Téléthon. Et puis à une réunion, elle nous a dit, vous savez, à Brest, on aura peut-être un champion du monde de roller. Et là, autour de la table, tout le monde était étonné. Moi, ma première, parce que je ne savais pas qu'on avait un champion du monde de saut en roller. Et puis c'est très spectaculaire ce qu'il fait. Donc on a dit banco, quoi. on l'a pris comme parrain. Voilà, c'est, on a eu une année Valentin Madouas, Catel Alençon, Gauthier Larsonneur, Clarisse Lavanant l'année dernière. Donc on essaye de varier, de changer, puis de donner une visibilité à un peu tous les sports ou toutes les pratiques, que ce soit la musique, la danse.
En gardant ce critère local à chaque fois ?
Oui, ouais, ouais. Ah oui, parce que c'est le local quand même qui nous fait vivre, c'est les ateliers des Capucins, mais puis ici c'est Brest. Hein.
Il y a un peu de chauvinisme.
Oh ouais, on aime notre ville, ouais. Ouais.
Alors justement, tu parlais des Capucins, la journée elle commence à 10h,
ouais.
Quel est le programme qui nous attend ?
Alors, donc le matin à 10h, de 10h à midi 30, on a la Zumba. Alors ça, on n'y déroge pas parce que c'est vraiment notre tronc commun. Et puis autour de ça, on a des animations. C'est-à-dire que bon, il y a le club de la S Gelmer Basket qui met en place des paniers de basket. Le handisport basket aussi nous rejoint cette année. On a cette année aussi le Kai Judo Club Brest. Donc on aura un tatami de 50 mètres carrés avec... Donc, accès à tout le monde, hein, c'est la pratique pour tout le monde. On a aussi la pratique de l'échec. Et en parallèle de la pratique de l'échec, on a dans une cellule des Capucins un championnat d'échecs, une compétition d'échecs qui va avoir lieu toute la journée. On a pour le KBMC, le Kiklo Brest Métropole Cyclisme, qui fait un parcours vélo pour les enfants. Le Brest Roller Club s'est associé à eux, donc ils vont faire un parcours commun, roller, saut, vélo. Bon, ils se sont aussi liés pour faire tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Bah, si, on a les Compagnons du Devoir, ça c'est important. Les Compagnons du Devoir, c'est une belle découverte l'année dernière qui a beaucoup, beaucoup plu. Et cette année, bah, les pâtissiers nous font des petits gâteaux, on fait des sachets de gâteaux, ils vont vendre des petits gâteaux et ils font aussi de la taille d'ardoise. Y a des couvreurs qui vont faire la taille d'ardoise, faire des objets avec les gens qui voudront y participer. J'ai oublié quoi ? Bah, au niveau du maquillage pour les enfants, bah, ça c'est toujours aussi... ça, on n'y déroge pas parce qu'on a la queue au maquillage pour les enfants. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. Et puis, en parallèle de tout ça, on a le climb-up, qui est le mur d'escalade des Capucins. Julien, son directeur, qui est un homme fantastique. On est entouré de gens sympas, qui nous a proposé aussi de nous rejoindre depuis l'ouverture. Et à chaque remontée, il y a 1 € de versé à notre collecte. Donc, et l'année dernière, il y a eu plus de 500 remontées. Donc, c'est intéressant. On a aussi en parallèle 2 balades comptées. Donc, par des locaux, hein, Jacques Killien et Gérard Cabon, qui ont été élus au sport à la ville de Brest, qui sont des anciens de l'Arsenal, qui ont travaillé dans les ateliers des Capucins et qui connaissent Brest par cœur et ses anecdotes. Et c'est très humoristique. Ils partent, une part le matin à 10h30 et l'autre à 14h, 14h30 l'après-midi. On fait 2 balades dans Brest. Et voilà, tout ça en parallèle de notre animation. Et puis, il y aura une intervention aussi de Tristan Montier, le professeur Montier, qui est un professeur-chercheur de Brest, qui est bénévole-chercheur aussi à la FM Téléthon et qui est pour nous aussi une belle rencontre. Quelqu'un de très abordable et qui nous conforte dans notre action parce que on sait que ça progresse. Quoi. Voilà.
Alors, tu disais au tout début, vous êtes 4. Oui. Moi, la question que je me pose avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est comment à 4, on organise une programmation aussi riche ?
Alors déjà, parce qu'on est très fusionnelle, on est très bosseuse et on a un gros réseau sur Brest. Toutes les 4, on a une ancienne élue de la ville de Brest, Paulette Dubois. On a Cathy Premel-Kabik qui travaille à l'agence Bergame, qui est une agence de communication. Et Aurélie Perron, qui est, elle, comptable dans le notariat. Donc, elle, c'est différent, mais c'est notre trésorière. Et elle fait beaucoup de choses. Elle gère les bénévoles. Et puis, moi, je suis une vieille Brestoise, une ancienne Brestoise. Je suis très impliquée dans le milieu associatif. Et puis, grâce à tout notre réseau, et puis à beaucoup d'énergie, beaucoup de rigolade, parce que,
c'est important aussi.
C'est important parce que c'est du boulot et si ça ne va pas, ça n'avancera pas. Et on a cette année, depuis des années, on a une chaîne autour de nous de relations, que ce soit le Kiklo Brest Métropole Cyclisme, Philippe. On a des gens qui sont très très proches, qui sont très partie prenante et qui nous soutiennent. Je n'ai pas dit que ça se fait sans heurts et sans problème. Bon, on a toujours des petites choses à régler, mais on est très bien entourés et puis... C'est, ouais, on est bosseuse, quoi. Voilà.
Alors, tu parles aussi de beaucoup des partenaires depuis tout à l'heure. Tu nous en as déjà nommé quelques-uns. Combien de partenaires vous avez? Et, grosso modo, hein, tu n'es pas obligé de donner un chiffre précis. Et surtout, moi, la question que je me demande, c'est comment est-ce qu'ils vous aident concrètement, ces partenaires?
Alors, c'est souvent des dons de on a Audiolith, par exemple, qui est une boîte qui fait toute la sonorisation des concerts, tous ces grands concerts. Franck d'Audiolith, il nous met le matériel à disposition. Bon, nous, on règle le technicien. McDo nous a rejoint cette année, nous a réglé les affiches. Alors que bon, c'était pas prévu qu'on fasse des affiches. Mais là, on a 40 affiches en ville. Très, très visible, bon, grâce à McDo. Le Roi Merlin, alors là, c'est le Roi Merlin et Decathlon, c'est une très belle nouvelle. Depuis 3 semaines, on est avec eux, là, en partenariat. Et ils créent une journée spéciale le 3 décembre dans le magasin Le Roi Merlin, conjointement avec Decathlon. Et tout l'argent qu'ils vont récupérer sur cette journée spéciale où ils vont faire des make-its en bois pour les enfants, pour les adultes. Il y aura aussi soit du vélo, soit de l'arbalète avec Decathlon. Et tout cet argent-là récupéré, ils vont l'abonder dans notre collecte le lendemain. Et nous, ça nous fait une journée supplémentaire parce qu'on doit se retrouver samedi à Le Roi Merlin pour faire la journée avec eux. Ils vont porter le t-shirt John avec nous aussi. On a donc Super Ruth Kéréderne qui nous suit depuis tout le temps. Cathy et son papa Hervé depuis le début de la première édition, le Crédit Agricole. Je ne vais pas en oublier, mais il y a pas énormément de partenaires, hein. les rois de Bretagne aussi cette année qui sont arrivés. On n'a pas énormément parce qu'on n'a pas un budget. Nous, en fin de compte, on n'a pas besoin de budget. Notre association, elle vit avec 300 euros à l'année. Tout le reste, on reverse à l'AFM. Ça, c'est clair et net. Tout le bénéfice, toute la collecte est reversée. Donc, ce qu'il faut, c'est juste pour qu'on puisse régler les factures des... Voilà, le Télégramme aussi est là, l'agence Bergame. Mais c'est beaucoup du relationnel et du, je dirais, de... Ouais, de...
Oui, il y a un côté collectif qui est hyper important.
Voilà, ouais. Oui.
Et alors, sur cette journée qui nous attend, est-ce qu'on aura des nouveautés sur cette édition?
Oui, le judo. Et puis, l'après-midi, on fait pilates et yoga. Voilà, donc ça, c'est Gérald. Alors, il faut dire aussi, il faut que je remercie aussi mes profs de Zumba, parce qu'ils sont 11 ou 12, tous les gens. Et il y a Gérald Saint-Pierre qui lui, gère tout ça. Et Gérald nous a proposé de faire pilates et yoga l'après-midi, donc 2 heures, de 14h à 16h, avant le concert de Jules. Il faut venir avec son tapis, mais bon, ça va être sympa, je pense aussi. Ça va changer un peu, ça va recaler un petit peu de la Zumba. Reposer, puis après on a la fanfare, donc Cyril Maréchal, très belle rencontre aussi, on ne se connaissait pas, on s'est retrouvés il y a un mois, et puis ils ont dit banco, donc Simili Cuivre nous rejoint aussi pour clôturer la journée. C'est copieux, mais très varié. Bon, le principe, c'est que les gens, quand ils rentreront dans l'enceinte des animations, le don minimum, c'est 6 euros, pour les adultes, 3 euros pour les enfants. Si je dis bien le don minimum, parce qu'on peut donner plus, si on veut donner plus. Et il y a la possibilité de défiscaliser aussi, bien sûr, mais les gens connaissent ça. Et donc, tout le monde a le t-shirt jaune, le porte ou le porte pas, et puis peut participer à toutes les animations, toute l'après-midi, toute la journée. J'espère qu'on sera nombreux et que ce sera animé.
J'espère aussi. Je rappelle que l'événement a lieu dimanche 4 décembre de 10h à 17h aux ateliers des Capucins ici à Brest. Que les dons l'année dernière, à titre indicatif, ça a permis de donner 34 millions d'aides aux malades, 44 millions dans la recherche et 41 essais cliniques. Et puis enfin, pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer dimanche, parce que ça arrive, il reste aussi de 36-37. Merci, Hélène, d'être venue répondre à mes questions.
C'était sympa, Sébastien. Merci de m'avoir invité.
Et puis, avant de recevoir notre deuxième invité, écoutons Kibroum Biran de Mercato en direct sur Radio U. Thank you. Vous êtes bien sur Radio U au 101.1, c'était Gibroum Biram de Mercato et nous accueillons tout de suite Jean-Yves du Musée de la Marine de Brest. Salut.
Bonsoir.
Alors, l'institution du Musée National de la Marine, c'est un établissement public administratif qui est placé sous la tutelle du ministère des Armées. Ça regroupe alors Paris, Port-Louis, Rochefort, Toulon et Brest. Dis-nous, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de créer des musées de la marine ?
Alors, les musées de la marine sont nés, en fait, dans les arsenaux où la marine royale construisait et armait des navires. Et au XIXe siècle, on a commencé à y conserver et à organiser la présentation de maquettes, de machines-outils, de sculptures, de décorations navales, etc., qui avaient été produites dans les siècles et années précédentes. Et c'est comme ça que sont nés les musées, qui constituent aujourd'hui le réseau du Musée national de la marine.
Alors sur votre site internet, le musée, c'est à la fois, je cite, hein, « un lieu d'art et d'histoire humaine et de tradition populaire engagé dans les grands enjeux maritimes du XXIe siècle ». Mais dis-moi derrière cette longue phrase, est-ce que tu peux nous décrire concrètement les objectifs du musée ?
Alors les objectifs du musée, c'est d'évoquer pour notre public le fait maritime dans sa globalité, c'est-à-dire que le musée de la marine s'intéresse à toutes les marines, qu'elles soient des marines de plaisance, de recherche, de pêche, de guerre, etc. Et on est à la fois un musée d'art, puisqu'on a des œuvres peintes, des objets qui sont issus de la décoration navale, qui sont donc considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, mais on présente également des objets techniques du quotidien, utilisés par les marins, les pêcheurs ou les marins d'autres marines. Donc on est aussi ce qu'on appelle un musée de sciences et techniques. Donc c'est en fait une palette extrêmement large.
Alors tu disais vous êtes porteur de projets, il y a des projets comme des conférences mais aussi des expositions. Comment là, si on se concentre sur Brest, comment vous organisez, vous préparez pour organiser ces événements ?
Alors, c'est vrai que tous les 18 mois à peu près, le musée propose une nouvelle expo temporaire pour laquelle on choisit un thème, alors un thème qui peut être lié à l'actualité, ou pas, ou un type de collection en particulier que l'on conserve et qu'éventuellement d'autres musées ne possèdent pas. Et ensuite, à l'appui de ces collections, on va réaliser un travail de recherche documentaire en archives, en bibliothèque, etc., pour documenter ces objets, pour raconter également une histoire, puisqu'une exposition, c'est vraiment la mise en espace d'objets de collection, c'est-à-dire l'écriture d'un récit, en fait, qui va guider le visiteur d'un objet à l'autre et lui permettre de comprendre un phénomène un peu global. Et pour illustrer, actuellement nous avons une expo temporaire consacrée au 250e anniversaire de la découverte des archipels de Kerguelen et de Crozet dans le sud de l'océan Indien. Donc c'est un parcours en fait qui évoque ces territoires depuis leur découverte jusqu'à aujourd'hui.
Alors vous organisez aussi des activités adultes et enfants. Là encore, comment quand on construit un programme, on essaye de plaire à la fois aux plus petits et aux plus grands ?
Alors pour plaire aux plus petits et aux plus grands, nous avons notamment ce qu'on appelle des visites famille, en fait, qui sont des visites qui permettent à des parents et à leurs enfants d'avoir une activité commune sur les collections permanentes ou sur une expo temporaire. Et puis sinon, pour la plupart des activités, nous avons en revanche une distinction entre activité adulte et jeune public. Activité adulte, on est plutôt sur des visites guidées, des visites théâtralisées ou des visites comptées. Et pour les enfants, on met surtout en œuvre des ateliers pour les 4-7 ans et les 7-12 ans, où l'idée est pendant à peu près 30-35 minutes de leur faire découvrir une partie de nos collections et ensuite de les rendre actifs dans le cadre d'un atelier où ils sont amenés à produire des choses ou à travailler finalement avec une médiatrice.
Et le musée, il est aussi hors les murs. On peut penser au canot de l'empereur, qui est au Capucin. On parlait justement des Capucins tout à l'heure avec notre premier invité. Est-ce que là, tu peux nous rappeler la mise en place de ce projet, l'arrivée à Brest ? Et puis, on a sûrement des auditeurs qui connaissent l'histoire, mais pour voir un peu maintenant la continuité, quelles sont les continuités aujourd'hui depuis l'arrivée du canot à Brest avec le musée ?
Alors le projet de faire venir le canot de l'Empereur à Brest est né du projet de rénovation du musée de la Marine à Paris, au Palais de Chaillot, qui a fermé en 2017 pour une rénovation intégrale. Donc il fallait faire sortir en fait le millier d'œuvres qui se trouvaient dans ce musée. Et il s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire de ce canon de l'empereur, qui pouvait soit partir en réserve pour une durée sans doute assez longue, ou bien être présenté dans un autre lieu. Et comme ce canon a une histoire qui est majoritairement liée à Brest, puisque ce canon a été construit en 1810 à Anvers pour Napoléon Ier, mais il a été rapatrié dès 1814 à Brest, et il y est resté jusqu'en 1943, il a semblé, je dirais, naturel, et logique, et aussi intéressant de le ramener ici. Or, le musée au château à Brest n'avait pas d'espace approprié pour l'accueillir, d'où l'idée de le présenter dans les Capucins, où il constitue aujourd'hui un point d'attrait, en sachant que ce canot reste dans les collections du musée, et que sa médiation, c'est-à-dire par le biais de visites, d'ateliers avec les enfants, etc., se fait par le biais du musée.
Oui, car il y a régulièrement des liens qui sont faits sur des visites, par exemple, entre le canot et le musée.
Oui, tout à fait. Nous avons deux types d'activités. Une, alors on va dire plutôt pour un public adulte, ce qu'on appelle une visite couplée, qui débute au musée. On évoque l'époque de la marine de l'Empire, la modernisation de l'arsenal suite à la visite de Napoléon III qui a utilisé ce canot à Brest. Et ensuite, le groupe se rend au Capucin pour voir l'objet et pouvoir également en apprécier à la fois la richesse de la décoration et finalement le côté canot d'apparat qui est très visible. Et puis nous avons également des ateliers pour les scolaires qui se déroulent en grande partie autour du canot proprement dit.
Alors on parle du musée et de sa programmation depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner les grandes dates qui sont à venir et celles qu'il faut vraiment absolument retenir?
Alors la principale date à venir, c'est le 5 mars 2023, qui sera en fait la fermeture de l'exposition temporaire actuelle consacrée à Kerguelen et à Crozet. Donc il reste encore quelques semaines pour les voir. Ensuite, en 2023, à partir du mois de juin, nous aurons une nouvelle exposition temporaire qui sera une expo consacrée aux sous-marins, l'histoire des sous-marins en France, avec une approche notamment photographique. Donc on sera plus dans un accrochage photographique que dans une expo en 3D avec beaucoup d'objets. Donc voilà, je dirais, les deux principales échéances.
Eh bien, je rappelle que le musée, il est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, sauf le mardi, et ce jusqu'en mars, que le tarif, il est de 7€ et que c'est gratuit pour les étudiants. Donc il faut en profiter. Merci Jean-Yves d'être venu répondre à mes questions au micro de Radio U. Merci aussi à Jade et à Lou, et aussi à Vincent qui a fait un petit coucou tout à l'heure à la technique. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain dès 18h pour une nouvelle quotidienne. Et sur ce, bonne soirée.